Alors je vous propose juste encore de nous incliner dans la prière pour introduire ce moment. Seigneur, quel privilège de pouvoir nous arrêter, de pouvoir mettre ce temps à part pour être à ton écoute, à l'écoute de ta parole. Seigneur, tu veux placer dans ma bouche, Seigneur, tes mots, ta compréhension des choses. Merci pour le livre de Joël que nous avons et tu veux aussi répondre, Seigneur, à chacune de nos interrogations, à chacun ici présent, et que tu puisses nous renouveler, nous encourager, nous vivifier, Seigneur, au travers de ce passage de Joël. Que la gloire te soit rendue. Amen. Alors, on avait vu ce matin que le texte était très bien écrit. Et on avait vu que dans les deux premiers chapitres, notamment, il y avait une symétrie assez marquante, en tout cas que les spécialistes voient. Mais dans ma présentation, dans l'étude que je vous propose maintenant, dans le temps 1, justement pour évoquer cette première partie, on va un peu déroger puisque les éléments se répondent. Voilà, donc on n'aura pas besoin de suivre le plan tel quel. Alors vous serez d'accord, et c'était aussi le texte que je vous ai donné tout à l'heure de pouvoir vous plonger dans le texte pas évident de Deutéronome et de Lévitique, parce que ça nous interroge, la souffrance interroge, le malheur interroge. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'heure des informations, à l'heure d'Internet, à l'heure des infos qui circulent presque en temps réel, pour ceux qui ont des fois des smartphones, on a des fois on a une indication qu'il y a eu un accident à tel endroit, il y a eu des morts, on a peut-être l'indication qu'il y a eu un tremblement de terre. On est rapidement confronté au crime, à l'accident, à l'attentat, à la catastrophe naturelle, à l'événement tragique humain. Des individus, des familles, des villes, des régions, même des pays sont d'un instant à l'autre frappés, meurtris par des situations et qui nous dépassent. Et justement, je trouve ce qui est extraordinaire dans le livre de Joël, il nous fait part d'un événement catastrophique pour le peuple. Alors, je pense que tu peux afficher la prochaine. Tchouk. On ne voit pas très bien, mais c'est une image apocalyptique de Paris. La tour Eiffel en vadrouille. Donc l'événement pour Israël, donc c'est le gros titre de ce deuxième temps que je vous propose, l'événement pour Israël. Et cet événement, c'est le premier point, c'est un jour terrible. Les 14 premiers versets. C'est vrai que Joël, dans son livre, commence par nous décrire un fléau qui est terrible. On comprend dans les versets, et je vous avais fait part tout à l'heure, qu'il y a une invasion de sauterelles qui est appuyée par une période de sécheresse qui frappe durablement le pays. Et les éléments se retirent. On découvre très clairement dans ces premiers versets ce jour terrible. Une sécheresse, une invasion de criquets. Alors est-ce qu'après on peut y plaquer une invasion d'une armée? Peut-être, probablement. Mais en tout cas, il y a une atteinte importante à la prospérité du pays. Et c'est sur cet événement historique, alors que ce soit une invasion, une famine ou une guerre, sur lequel Joël va s'appuyer, qui va servir de tremplin, je l'avais déjà dit ce matin, à l'ensemble de sa prédication, à l'ensemble du message qu'il va vouloir donner de la part de Dieu. Alors je vous propose juste de regarder une vidéo. Alors c'est une petite vidéo de 2 minutes, j'ai trouvé ça sur le net, et ça parle d'un fléau, une invasion de criquets. Alors c'est juste un truc qui s'est passé à Madagascar il y a quelques années, pas si longtemps que ça. Et alors voilà, c'est juste succinct, ça va nous donner une idée. Il y a du son, normalement. Ah, il faut juste que tu ailles au début.
Pendant près de 3 quarts d'heure, sans interruption, un gigantesque nuage de criquets de 15 km de long traverse la route nationale 7, célèbre route touristique du sud de Madagascar. Après l'invasion de criquets dans les pays du Sahel en 2003, c'est tout le sud-ouest malgache qui est contaminé.
Et ensuite, il y en a également toutes les rivières, ensuite toutes les maïs qui sont en terre.
Selon les experts, il y a actuellement une centaine d'essaims à Madagascar, ce qui représente 500 milliards de criquets qui peuvent consommer 100 000 tonnes de végétation verte par jour. Ici, il vient de manger les feuilles de ces cannes à sucre.
Déjà, il y a peu de riz. Il y a peu de gens qui ont plus de 10 hectares de culture. Donc après le passage des criquets, il n'y a plus rien à manger.
On voit bien, alors il y a 20, je disais, il y a 26 siècles hein, qui nous opposent avec l'épisode que nous parlait Joël. Pourtant, des épisodes qui se passent encore aujourd'hui dans bien des pays et on retrouvait certains éléments que Joël nous souligne sur la catastrophe que c'est une invasion de criquets. Alors on n'imagine pas une petite bête, mais par milliards, le nombre de dégâts que ça peut faire. Et c'est vrai qu'une invasion de criquets dans un pays est une vraie plaie pour le pays, pour le peuple, pour les récoltes, pour les animaux. Il faisait part aussi tout à l'heure dans ce reportage, même si on vous voyait peut-être pas très bien. Mais en tout cas, c'est un jour terrible dont nous parle Joël. Verset 2. « Est-il déjà arrivé quelque chose de pareil dans votre vie ou celle de vos ancêtres ?» De mémoire, Joël dit « Rien de tel n'était déjà arrivé. » Une vraie plaie physique pour le peuple d'Israël semble donc se produire au moment où Joël écrit ce passage. On le lit aussi plus tard au chapitre 2. « Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais de pareil de génération en génération. » Un jour terrible, incomparable. Et donc Joël appelle à se lamenter. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nombre d'interpellations du prophète. « Écoutez, prêtez l'oreille, verset 2. Racontez-le, verset 3. Réveillez-vous, pleurez, lamentez-vous. Lamente-toi, verset 8. Couvrez-vous de sacs, pleurez, criez, verset 14. » Joël demande à ne pas rester indifférent à la situation. D'ailleurs, comment pourra en est-il être autrement? C'est un événement, c'est une situation particulière. Pour que Joël demande à ce que le message, que cet événement soit raconté au moins pendant 5 générations. Verset 3, c'est frappant. Je me suis dit pourquoi? Racontez-le à vos enfants, que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants. Blan. Un événement tragique. On ne peut pas être resté indifférent. Dans le souvenir collectif, cet événement dont Joël nous fait part doit être gravé. Et le fait qu'on le lit aujourd'hui en démontre aussi. Joël demande à se lamenter, mais c'est un jour terrible de ravage, un jour d'invasion. Rien ne reste. Et je disais, quand le passage était écrit de façon très belle, quand on lit le verset 4, hein, ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré, on voit vraiment une accumulation sur accumulation qui montre véritablement que, on pourrait dire, un rouleau compresseur est passé. Rien n'est laissé derrière. Et après, dans ces 14 premiers versets, Joël nous fait une description, on va dire, fataliste. Tout est touché. Il n'y a plus de vin. C'est la désolation dans la vigne. Le figuier est ravagé. Il n'y a plus d'offrande dans la maison de l'Éternel, verset 9. Les champs sont dévastés. Plus de blé, plus de vin, plus d'huile, verset 10. Plus d'orge, plus de moisson, verset 11. Tous les arbres des champs sont desséchés. Le grenadier, le palmier, le pommier, verset 12. Tout est touché. Les alimentations de consommation quotidienne. La vigne, ça nous prête à sourire d'entendre le vin. On se dit, c'est la fierté alsacienne, certains, des vignes, un viniculteur, c'est précieux. Mais du temps de Joël, c'était un des aliments de consommation quotidienne. Le raisin, qu'on utilisait frais, sec, sous forme de gâteau, on le buvait frais ou fermenté. Mais il a été enlevé de la bouche, verset 5. On dirait la surprise, un événement qui arrive brusquement. La nourriture est enlevée des yeux, verset 17. Plus de semences, les greniers sont vides, les entrepôts sont en ruine, plus de blé, plus de pâturage pour les animaux, verset 18. Le feu a dévoré les plaines, la flamme a brûlé tous les arbres des champs, les torrents sont à sec, etc. etc. Il aurait pu juste dire une phrase et c'était bon, que c'était la famine, la sécheresse, mais non. Il nous agrémente d'une description riche et variée et il touche, c'est vraiment la catastrophe, c'est vraiment un jour terrible. Tout est tellement dévasté qu'il ne reste rien. C'est pour ça qu'il utilise aussi telle l'image d'une armée qui est passée et qui a semé toute cette désolation. On ne peut plus assumer le culte. Et je ne sais pas si vous avez observé, mais ce n'est pas simplement une catégorie de personnes qui est touchée. Il parle à un moment des buveurs de vin, il parle de la jeune femme, il parle des prêtres, il parle des paysans, il parle des fermiers. Tous sont touchés. C'est l'économie totale du pays qui est menacée. Y a-t-il encore dans ces conditions-là un avenir ? Les sauterelles ont tellement dévasté le pays. Je disais que c'était riche en symboles, et même si le vin, la vigne par exemple, c'est une image locale, très forte du pays d'Israël, à plusieurs, si vous parcourez la Bible, le vin, la vigne, même le figuier sont des images qui représentent Israël. Alors, se dire que ça c'est détruit, ça touche Israël. Israël est souvent comparé à la vigne. Le figuier, c'est l'emblème d'Israël. On parle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour parler de ces sauterelles, de ces grillons, on parle au verset 6 d'un ennemi qui est puissant. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. C'est vrai que quand on regarde les criquets de près, peut-être que ça fait peur. Mais Judas, c'est le lion de Judas, le symbole de la puissance, de la royauté, qui se fait attaquer. Enfin, on voit vraiment que Joël utilise des images, utilise des signes forts qui sont à l'encontre du peuple. C'est la désolation. Tout moyen de subsistance, de choix, d'avenir du peuple sont touchés. Joël parle vraiment d'un jour de malheur. Il appelle donc son peuple au jeûne. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais entre 13 et 14. Pourquoi il y a cette désolation du pays ? Le texte ne nous le dit pas. Je vous ai fait lire tout à l'heure ce qu'on avait dans l'alliance abrahamique et je pense que c'est choquant. Pour nous, au XXIe siècle, c'est choquant de lire que Dieu punit lorsqu'on désire être loin de Dieu, lorsqu'on désire ne pas le suivre, lorsqu'on ne met pas en pratique ses commandements. L'Ancien Testament, c'est ça. Tu obéis, tu es béni. Tu désobéis, tu es maudit. Je vais t'envoyer des plaies, je vais t'envoyer la famine. On te retirera ta famille, tes biens, tes proches. Parler de ça aujourd'hui, c'est un peu... On a l'impression que c'est un peu donnant-donnant, mais ce n'est pas juste. Est-ce que c'est la désobéissance de Dieu qui a amené ce fléau à Israël ? Le texte ne nous le dit pas, mais on pourrait le penser. C'est vrai, quand on met, par exemple, ce passage en parallèle avec ce que vous avez lu tout à l'heure, on pourrait le dire. On pourrait dire, ouais, là, on a les sanctions parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance. Dieu a prévu ces malédictions. C'est normal. C'est la conséquence de leur situation. C'est la sanction de Dieu à l'égard de leurs égarements. Pourtant, Joël appelle à un jeûne. Un jeûne de tous les habitants, verset 14. Joël appelle à se retrouver tous au temple en habit de deuil. Je reviendrai tout à l'heure dans une autre partie sur cet aspect du jeûne et des éléments que nous renseigne Joël sur cette demande. Mais Joël demande au peuple de se lamenter sur cette catastrophe, de se présenter à Dieu et d'exprimer sa souffrance. Je voudrais nous poser une question. Comment on réagit dans les coups durs ? C'est vrai qu'il y a des fléaux, il y a des catastrophes qui nous touchent plus ou moins. Face au mal et à la souffrance, comment on réagit ? Dans les situations qui sont difficiles, qui nous échappent, et ici, Joël est confronté à une situation et le peuple qui leur échappe. Ils ont, et même ici à Madagascar, aujourd'hui, 26 siècles après, ils sont déboussolés, ils ne savent pas comment faire. Ils manquent d'argent, ils manquent de moyens, ils manquent de tout. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation où le bout du tunnel ne semble pas arriver, où l'avenir semble incertain ? Comment on réagit face à la mort d'un jeune dans un accident de car ? C'est l'actualité. Comment on réagit face à la mort d'une centaine de personnes lors d'un tremblement de terre, à Taïwan, comme cette semaine ? Cette semaine est paru un article sur le blog, alors ça me fait de la pub, enfin je fais de la pub, pas pour moi, mais Tout pour sa gloire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je vous conseille, toutpoursagloire.com de mémoire, je vous conseille vraiment de bons articles, tous les jours il y a des articles, mais cette semaine il y a eu un article justement sur cet aspect-là, comment on réagit face à la souffrance. Et il donnait un certain nombre de points que je vais vous lire, je trouve qu'ils illustrent bien comment réagir. Le premier point c'est « attendons-nous à connaître des souffrances ». Parce que 1 Pierre 4 dit par exemple « Ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » La parole de Dieu ne nous cache pas qu'il y aura des coups durs dans la vie. Et je pense que je ne vous apprends rien. Attendons-nous à connaître des moments où on sera en bas. Un deuxième point, c'était « supportons le mal ». L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Lorsqu'on a des moments tragiques, on a du mal à supporter la souffrance. Mais la parole de Dieu nous encourage en tout cas dans ce sens. La parole de Dieu nous encourage à être reconnaissant pour l'œuvre de purification que Dieu accomplit par la souffrance. On voit dans Éphésiens, par exemple, « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Paul dira en Romains 5, par exemple, « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. » Un autre aspect qui était, c'était « Haïssons le mal, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. » Romains 12. Face à la souffrance, nous pouvons aussi prier pour que nous ne soyons pas exposés aux difficultés, au mal. Matthieu 6, par exemple, dit, enfin Jésus encourage, ne vous exposez pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est une prière. Soyons vainqueurs du mal par le bien. Ne te laisse, Romains 12, toujours verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Pas évident. Oui, mais on peut dire, comme Joël, quel jour terrible. Je pense que tu peux passer juste à la dia encore après. Ah bah, j'ai mis. Alors, ça c'est Joël, c'est la représentation de Joël sur la voûte de la chapelle Sixtine. Alors, la belle cathédrale catholique que Michel-Ange a peint. Il a peint, on a souvent l'image de Adam qui touche avec le doigt de Dieu, enfin voilà. On a d'autres fresques, mais ça fait partie de cette grande fresque monumentale, et c'est Joël. Et Michel-Ange, je trouvais qu'il était... Ah, il a réfléchi comment il a construit cet aspect-là. Il a dessiné Joël. Bon, Joël, il a mis une calvitie naissante, des cheveux gris décoiffés, parce qu'il vit à une période pas évidente, mais il est assis droit sur son siège, consultant fébrilement un rouleau, donc on le voit qu'il lit, et c'est lié vraiment... Joël, c'est un texte qui se lit. Il a une cape enroulée autour de ses larges épaules. C'est l'image du pouvoir, de la conviction. Il a de la conviction. Mais il faut savoir que Michel-Ange a mis ce portrait dans la fresque à côté de l'ivresse de Noé. Alors l'ivresse de Noé, on se rappelle, c'est après que l'histoire de l'arche. Après, il se retrouve, il boit un peu trop de vin. Et il se retrouve nu, et puis voilà, il y a l'épisode avec ses fils. Et Joël se trouve à gauche de cette fresque-là. Et je trouvais que que Michel-Ange, il a bien composé son truc, parce que Joël nous parle que le vin est ôté. Joël annonce la destruction de la vigne. Il n'y a plus de récolte. On ne va plus pouvoir festoyer comme Noé. Mais revenons au texte. C'est juste pour passer de temps en temps une petite image. On peut dire, c'est vrai, dans ces premiers versets, quel jour terrible. Mais ce n'est pas fini. Le jour de l'Éternel. Et c'est vrai que c'est une expression qu'on retrouve dans ce livre de Joël. À partir du verset 15, et ça c'est une grande partie jusqu'au verset 11 du chapitre 2, c'est le thème clé, le jour de l'Éternel. Le jour du Seigneur, selon certaines traductions. Et on le retrouve trois fois dans cette section. C'est un jour terrible, verset 15. Un jour proche qui vient, verset 1 du chapitre 2. Un jour qui est grand, chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce que ça signifie, le jour de l'Éternel ? Il faut dire, le jour de l'Éternel, c'est le jour que Dieu s'est choisi, de manière toute spéciale. Un jour qui est différent des autres jours. N'oublions pas que, pourtant, tous les jours, Dieu les connaît, Dieu les maîtrise, Dieu reste souverain. Mais ici, Dieu s'est choisi un jour particulier pour se montrer, un jour particulier pour régler ses comptes, pour conclure une phase de l'histoire, un jour où il va exercer son jugement contre son peuple ou contre d'autres peuples. Et c'est vrai que cette expression « le jour de l'Éternel » montre vraiment que c'est un jour particulier. Nous sommes dans un jour de détresse, c'est un jour particulier, le jour que Dieu avait décidé. Et c'est vrai que pour ceux qui maîtrisent l'Ancien Testament et qui ont déjà parcouru plusieurs fois les histoires, on voit la grande patience de Dieu dans l'histoire. Avec le peuple d'Israël, il a été à de nombreuses occasions, il a désobéi. Et pourtant, Dieu n'a pas tout de suite sanctionné comme on l'a vu, comme vous l'avez lu dans Lévitique ou dans Deutéronome. Il a été patient, il a attendu jusqu'à un certain jour où il a dit à un moment donné, stop. Le jour de l'Éternel, un jour Dieu dit stop. Et c'est vrai qu'il y a des périodes dans l'histoire, et des fois, il y a certains, quand on parle avec nos contemporains, on a l'impression, Dieu, il est aux abonnés absents. Il est où ? Sa présence semble lointaine dans notre difficulté. Si Dieu était vraiment là, s'il se préoccupait de nous, les choses ne se passeraient pas comme ça. Souvent, on se dit, Dieu maîtrise les choses, il permettrait qu'il n'y ait pas tous ces malheurs. Mais il y a un jour où Dieu se montre, où Dieu se dévoile. Et Joël reconnaît un jour, ce jour de difficulté, ce jour de terrible, est un jour de l'Éternel. Il voit dans ces signes, dans cet événement tragique, il voit la main de l'Éternel. Regardons quelques caractéristiques de ce jour de l'Éternel. C'est un jour désastreux. On le voit, c'est sombre. C'est une dévastation, c'est un ravage, il n'y a plus de nourriture, plus de joie, la famine, la sécheresse, je me redis, mais c'est des jours de ténèbres, d'obscurité, verset 2 du chapitre 2. Un jour terrible, qui pourra le supporter ? Nous dit Joël au verset 11 du chapitre 2. C'est un jour redoutable, c'est un jour qui fait trembler, c'est un jour qu'on n'attend pas. On pourrait se dire, face à la situation, je disais tout à l'heure, c'est un jour terrible que Joël est en train de nous décrire. On pourrait se dire, mais il est où notre Dieu ? Un Dieu qui a fait alliance avec nous, un Dieu qui veut prendre soin de nous. Souvent, quand on pense à l'intervention de Dieu, et on pourrait se dire, le jour de l'Éternel, on va se dire, c'est le jour où il va nous relever, on va penser au triomphe. On pense plutôt au triomphe plutôt qu'au jugement. On pense plutôt à l'éclaircie qu'un jour sombre. Le jour de l'Éternel, c'est un jour désastreux. Et c'est vrai que plusieurs fois, Joël nous fait part que le culte a cessé, qu'il n'y avait plus d'offrandes pour pouvoir faire le culte, que l'activité du culte semble arrêtée. Est-ce que c'est le signe d'une rupture entre le peuple et Dieu ? On peut se poser la question. Souvent, on pense le jour de l'Éternel comme un jour d'éclaircie, un jour de lumière, un jour de victoire. Et c'est vrai que même moi qui me dis, ben, la fin des temps, lorsque le Seigneur reviendra, ce sera un jour exceptionnel, un jour d'éclaircie, un jour de... Oh, vivement qu'il revienne. Mais n'oublions pas que le jour de l'Éternel, et en tout cas, ça sera dans le troisième temps, le jour de l'Éternel est associé aussi à cette question du jugement, une question terrible. Dieu n'est pas simplement au service des humains. Il n'est pas là simplement pour relever le peuple. Dieu ne tolère pas la vue du mal. Et c'est vrai qu'à la lecture des passages de Lévitique et de Deutéronome, on pourrait se dire, Israël ici a un jour terrible de jugement parce qu'il s'est écarté de Dieu. Dieu doit donc alors intervenir. Il demande purification. Il demande à ce que le mal soit ôté. Un jour de ténèbres et d'obscurité. C'est vrai que le vocabulaire qu'emploie Joël fait vraiment penser à des fléaux comme lors des plaies en Égypte. Tout à l'heure, je vous ai interrogé comment on réagit dans les moments de malheur, de souffrance. Des fois, on a tellement tendance, et je peux être moi le premier aussi, à nous écouter, de nous fabriquer un Dieu qui est un peu commode, qu'on le met dans notre boîte, un Dieu qui va bénir nos projets, un Dieu à qui nous doit un peu une bénédiction, un Dieu qui nous arrange dans les moments difficiles. Ah Dieu, soutiens-moi, relève-moi. Un peu un Dieu talisman qui est avec moi partout où je vais. On a des idées de Dieu et je pense que bien souvent elles sont bien loin de ce qu'il est, de ce qu'il est réellement. C'est vrai qu'on met notre Bible dans notre poche, mais est-ce que des fois, parfois, on ne met pas trop Dieu aussi dans notre poche ? Lorsqu'on fait des projets, lorsqu'on entame, je ne sais pas quoi comme réflexion. Ce jour de l'Éternel est annoncé par des malheurs. Et tout à l'heure, en parcourant les Deutéronome et les Lévitiques, vous avez aussi vu clairement l'un ou l'autre verset qui disait que clairement, c'est Dieu qui donnait les jours de malheur. C'est Dieu qui était à l'origine, c'est Dieu qui enlevait, c'est Dieu qui retirait, c'est Dieu qui provoquait la famine. D'entendre ça, ça fait un peu... Je ne sais pas si vous allez partager... Alors, c'est qui ton Dieu, là ? Vous lui dites, écoute, mon Dieu, c'est celui qui permet la famine, c'est Dieu qui permet que n'y a pas le soleil ici, qu'il y a un tremblement de terre ici. Est-ce qu'on voit Dieu de cette façon-là ? Verset 15 du chapitre 1. Le jour, ce sont des malheurs décidés par le Tout-Puissant. C'est Joël qui nous le dit. Au verset 25 du chapitre 2, toujours, que j'ai envoyé contre vous. Donc clairement, Joël annonce dans ce passage que la famine, que le jour terrible de l'Éternel, c'est la marque de Dieu, a été décidé par l'Éternel. Et c'est vrai que dans les images qu'on retrouve de cet événement terrible, ça évoque la manifestation de l'Éternel. Souvent, quand l'Éternel se présente dans l'Ancien Testament, on utilise ces images-là. On le voit dans le chapitre 2, toujours au verset 10. Par exemple, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leurs éclats. C'est vrai que ça décrit peut-être l'essaim de criquets qui passe devant le soleil, mais ça montre quand même que Dieu est là, Dieu intervient. Dieu juge. Au verset 11, on apprend que l'Éternel est à la tête de cette armée. Joël nous décrit une invasion de criquets. Alors on pourrait se dire qu'il est à la tête, c'est une armée criquet. Même si on imagine que c'est une vraie armée militaire, physique, une invasion d'un pays extérieur, Joël est en train de dire « l'Éternel est à la tête de cette armée ». Il a du culot pour dire ça au peuple de Dieu. C'est l'Éternel qui conduit le combat. Moi, ça me choque de lire ça. Ça me dérange. Quand un malheur nous frappe, quand une situation dramatique nous frappe, on est souvent, et moi le premier, on réagit. Moi, Dieu doit aussi souffrir de la peine que j'ai. Dieu doit, et c'est vrai, la Bible nous dit que face aux situations dramatiques, il nous interroge, il nous dit, Dieu souffre dans cette situation-là. Mais est-ce qu'on voit un peu trop comme celui qui pleure à côté de nous ? Alors est-ce qu'on voit que c'est celui qui a permis pour peut-être nous réveiller ? Lorsque je parcours nos médias, et je constate ça hein, sur nos réseaux même, même parmi les chrétiens, on a souvent cette il y a les deux réactions. Lorsqu'il y a un événement catastrophique, vous allez avoir certaines personnes qui vont dire « c'est la punition de Dieu ». S'il y a telle catastrophe dans tel pays, c'est que Dieu a... Et puis vous allez avoir les autres, carrément l'extrême. « Ah non. Dieu souffre de voir cette situation difficile. Dieu vous aime, Dieu ne veut pas que cette situation arrive. Dieu n'aurait pas voulu cela, mais il l'a permis. » Qui sommes-nous pour dire que cet événement, ce tremblement de terre de Taïwan, c'est jugement de Dieu? Ou est-ce que c'est une plaie voilà, qu'il a permis, mais qui veut... Soyons prudents dans ce qu'on écrit, lorsqu'on analyse les situations de nos vies, les situations que l'on découvre. On pourrait se dire, est-ce que c'est une punition de Dieu? Qui sommes-nous pour pouvoir le dire? Joël ici, et je trouve, et Joël est un prophète de l'Éternel et porte-parole de Dieu, et nous l'avons dans la parole de Dieu, et ce que nous allons écrire peut-être sur un réseau de tel événement, ce n'est pas parole de Dieu, mais Joël nous a laissé, et il fait cette analyse, l'événement d'Israël est un fléau que Dieu a décidé, que Dieu a voulu. Comment réagissons-nous face à la souffrance, face à un événement terrible qui nous touche? Là, ça mérite un commentaire, et par rapport à ce que vous avez aussi lu tout à l'heure en petit groupe, il faut clairement le dire, et c'est pour ça que je disais aussi, c'est important quand on étudie un texte, de regarder à quel moment le texte est placé dans l'histoire de la révélation de Dieu, on dit. À quel moment? Est-ce qu'il est dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il est dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il est avant l'Alliance Mosaïque? Est-ce qu'il est... Voilà, c'est important de savoir. Parce qu'il y a des différences aussi face à cela. Le texte que je vous ai lu tout à l'heure concerne l'Ancien Testament. Après, on peut se poser la question, mais est-ce qu'il concerne encore le Nouveau Testament? Et bon, je ne suis pas grand théologien, mais il y a clairement une différence. Il y a deux régimes, on va dire, on appelle ça comme ça, deux régimes en théologie, deux régimes différents. Pardon. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi un peuple terrestre, Israël. Dieu a choisi de les installer dans un pays terrestre. Dieu a donné une alliance, un régime, des lois terrestres pour qu'ils vivent ensemble, pour qu'ils vivent une relation avec Dieu. Et donc, quand on lisait tout à l'heure Deutéronome et Lévitique, il a donné des bénédictions et des malédictions terrestres face à cette, on va dire, face à ce régime, face à cette expression. Donc, dans l'Ancien Testament, on a souvent cette réflexion cause à effet. Dieu voulait terrestre de façon visible, montrer par ce peuple des réalités bien autres. Alors que dans le Nouveau Testament, et c'est là où je fais une différence, l'alliance a été établie spirituellement, avec nos cœurs. Nous sommes un peuple, on n'est pas issus tous d'Israël. On est des chrétiens de nations différentes. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est venu. Le sens de la souffrance, le sens des privations, des malheurs, est différent parce qu'il a été pris par Jésus-Christ. On ne peut plus vraiment dire aujourd'hui qu'un fléau, que des malheurs, sont littéralement des châtiments de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on pouvait. Dieu le montrait, en tout cas, nous l'a montré tous les épisodes que nous avons, avec l'épisode d'Israël. Clairement, la déportation, plein d'événements dramatiques pour ce peuple, étaient des illustrations de l'intervention divine de Dieu. C'était des châtiments que Dieu avait voulu pour corriger, pour redresser. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire cette même façon-là? On ne peut pas le dire, mais on ne peut pas non plus l'écarter. Parce qu'on est aussi sur un autre régime. Dieu, Jésus-Christ, s'est incarné, a pris la souffrance. Vous savez, c'est quand on se fait mal, bien souvent qu'on se pose. Les sportifs, souvent, quand ils se blessent, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à réfléchir. Est-ce que j'avais pas trop donné? Quand on se fait mal, c'est là qu'on lève le pied. C'est là qu'on réagit peut-être, qu'on se dit, ben, on a peut-être agi sans réfléchir. Lorsque la situation semble dans l'impasse, on se dit, peut-être que j'ai mal réfléchi jusqu'à présent. Je pense que dans une situation de difficulté, de malheur terrible, et pour certains, le degré de terrible sera différent. Quand quelque chose arrive de sérieux pour nous, individuellement ou peut-être même collectivement, posons-nous la question. Est-ce que Dieu veut m'avertir de quelque chose ou pas ? Parfois, c'est juste une épreuve pour voir si nous tenons bon. Mais évitons de nous laisser entraîner par cette sensibilité de notre société qui dit qu'il ne faudrait pas souffrir parce que ce n'est pas celle de Dieu. Dieu annonce des événements pour éprouver notre foi, pour nous toucher, pour nous interpeller. Tout à l'heure, je vous ai partagé des extraits de l'article que vous pouvez trouver sur notreeglise.com. Et il poursuivait comme ça des façons de réagir face à des attitudes que nous devrions éviter lorsque nous sommes touchés par la souffrance et le mal. Et un autre point, c'était ne croyons pas que cette situation échappe au contrôle de Dieu. Et Joël le montre. Joël montre que cette situation n'échappe pas à Dieu. Au contraire, Dieu est présent. Dieu y est peut-être pour quelque chose. Ne croyons pas non plus dans la situation de souffrance que la vie est dépourvue de sens. Ne nous laissons pas abattre parce que nous avons le sentiment que le mal frappe de façon arbitraire, que la vie est absurde et dépourvue de sens. Paul, toujours dans Romains, et je suis frappé en étudiant ce sujet, dit ceci, Romains 11, « Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. » Paul est capable de dire « À Dieu soit la gloire » face à des jugements insondables, incompréhensibles. Face à la souffrance, ne croyons pas que Dieu est injuste. Psaume, ne pensons jamais, 145, ne pensons jamais que Dieu commet le mal ou qu'il est injuste dans sa manière de gouverner le monde, car l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Quand je disais tout à l'heure que ce n'était pas évident de comprendre les paroles prophétiques, ce n'est pas évident de se dire « Dieu est juste et Dieu permet cette situation-là au peuple d'Israël ». En tout cas, Joël nous rappelle dans ce passage que Dieu envoie clairement cette situation pour provoquer la repentance de son peuple. On en a déjà quelques traces à partir du verset 13 du chapitre 1, mais on le voit surtout dans la suite. Et c'est le troisième point, jour de l'Éternel. Un jour, c'est un jour pour revenir. Certes, c'est un jour terrible, mais c'est un jour pour revenir. Je propose juste simplement de le relire. On est au chapitre 2, à partir du verset 12. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait ? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte nation, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel les prêtres pleurent. Les serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Clairement ici, Joël nous fait part qu'il est, c'est un temps difficile, un temps terrible, mais c'est un jour, c'est un temps pour revenir. Nous avons un grand appel à la repentance dans ce passage. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, verset 12, il est encore temps. Israël, il est encore temps de revenir à moi. » Vous savez, la repentance, c'est clairement la tristesse qu'on éprouve de ses péchés, de la douleur d'avoir offensé Dieu, de lui avoir fait du tort. Et c'est vrai, là, il y a déchiré ses vêtements. Déchirer votre cœur et non vos habits. Quand on déchire son vêtement, on est en signe de deuil, on est vraiment affligé. Et je pense que quand Joël annonce, enfin quand Joël encourage le peuple à revenir à l'Éternel, c'est concret. Et ce qu'on n'attend pas souvent lorsqu'on est bien bas pour revenir à Dieu. Je me dis des fois, on est on crie à Dieu quand on n'est vraiment pas bien, quand on est vraiment bien bas. En tout cas ici, Joël nous encourage à regarder, à crier à l'Éternel. Alors je vous propose de regarder les quelques caractéristiques et le caractère notamment de la repentance, de cet appel à revenir à Dieu. Alors la repentance est, d'abord elle est intérieure. Revenez à moi de tout votre cœur, verset 12. Déchirez votre cœur et non vos habits. Pour Joël, ce qui est important, c'est le cœur avant les apparences. Dieu regarde au cœur. Je ne vous apprends rien de nouveau. C'est vrai que la Bible parle souvent du cœur. Le cœur, ce n'est pas simplement le centre de nos émotions et quand ça papillote là. Mais le cœur, dans le langage hébraïque, c'est vraiment le centre de tout, le centre névralgique de l'homme entier, de notre intellect, de notre psychologie. Le cœur est au cœur de tout le centre de contrôle de nos vies. Et donc l'appel à la repentance, c'est avant tout notre personnalité, notre vie intérieure, notre volonté qui doit revenir à Dieu. Ce qu'il y a au fond, c'est pas simplement l'apparence, c'est le cœur. Mais ici, une caractéristique aussi, c'est qu'elle est collective. On n'a pas trop l'habitude de ça. On pense à la repentance chacun chez soi, face à mon péché, face à ma difficulté, face à ma misère. Mais ici, on voit qu'elle est collective. Mais c'est vrai que le fléau touche le peuple. Mais elle est vraiment collective. Rassembler les vieillards. Ok, on peut se dire, les vieillards, allez, les places. Les enfants. Même les nourrissons. C'est écrit, hein. Que le jeune marié, même les jeunes mariés, doivent interrompre leur voyage de noces. Les prêtres, verset 17, tous sont associés. On voit si souvent la repentance sous un aspect personnel, individuel. Joël nous apprend aussi que la repentance a aussi place en tant que communauté, en tant que peuple, en tant que groupe. Les peuples. Et ici, dans le peuple, le temps d'Israël, c'était le cas, le peuple était lié les uns aux autres. Et le fait que Joël ait mis toutes ces catégories, nous ait listées, ce n'est pas simplement pour dire que voilà, il faut pas. C'était vraiment pour montrer que chacun, individuellement, a sa place et qu'il y avait une place collective pour la repentance. Alors on pourrait se dire, alors je vous disais tout à l'heure, on est dans l'Ancien Testament c'est le peuple de Dieu, Israël, bon, c'est le peuple entier qui doit se repentir. On pourrait se dire aujourd'hui, non, maintenant on est dans la nouvelle alliance, l'œuvre de Jésus-Christ, alors, c'est chacun avec son péché. Mais dans le Nouveau Testament, on est un peuple. On est un corps, comme dirait Paul. Et c'est vrai que nous nous appartenons les uns aux autres. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler les nombreux passages du Nouveau Testament qui nous rappellent les uns les autres. Cette dimension communautaire, cette dimension de peuple. Quand on a quelque chose à critiquer, quand on a quelque chose à revoir chez l'autre, quelque chose qui ne nous plaît pas chez l'autre, des fois on aimerait lui dire, on aimerait, si tu pouvais changer. Et souvent on se dit, heureusement que je ne suis pas comme lui. Heureusement que je ne suis pas tombé dans ce même travers, dans ce même péché que lui. On est un peu meilleur quand même, dans ma marche. On est fidèle. On se met si facilement en avant au détriment de quelqu'un qui est plus faible que nous, qui a plus de difficultés. Mais si on réfléchit dans le sens peuple, on est un peu fou de penser comme ça. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Lorsque normalement un est touché, nous sommes touchés, et ça devrait me toucher. Parce que lorsque un est touché, c'est l'affaiblissement de tous. Lorsque un dans une église passe des moments difficiles, ça devrait être toute l'église qui devrait pouvoir pleurer avec cette personne, qui devrait pouvoir intercéder pour cette personne. Et j'espère que nous sommes comme ça. Et je trouve elle est forte l'image d'un corps que Paul emploie. Parce que si un bras, si j'ai mal au bras, c'est tout le corps qui souffre. Si ma main souffre, pardon, par exemple. Et je me dis, bon, je ne peux pas utiliser ce bras. Admettons, je me suis blessé. Je ne pense pas que ma main, l'autre main, va dire, ah, heureusement, maintenant, je vais être utile. En tout cas, c'est ça la perspective divine aussi. La place de chacun. La place de la repentance aussi de façon collective. Tout à fait différent d'une société individuelle où on pense individu. C'est vrai qu'il y a notre responsabilité individuelle de chacun face à l'Éternel. Mais nous avons notre place aussi collective. De l'intérêt que nous portons. Du soutien que nous pouvons être de l'un pour l'autre. Et justement, un des autres aspects de cette repentance, c'est le rôle des responsables dans ce texte que Dieu a institué. On voit les prêtres et on voit que ces prêtres ont un rôle dans cet appel à revenir à Dieu. Verset 17, « Qu'entre les portiques et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel, qui disent « Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte. » Pour Joël, et c'est vrai qu'il est dans le contexte du peuple avec un temple, avec des prêtres, ces personnes qui ont été instituées par Dieu ont un rôle dans cette conduite, dans cette repentance. Ils ont leur place. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prêtre qui est séparé du reste du peuple, comme lors du temps de Joël. Clairement, ça a été abrogé. Mais nous portons tous un sacerdoce spécial dans l'Église. Et Dieu nous appelle comme un Pierre ou deux Pierres, je ne sais plus maintenant, mais nous sommes tous prêtres. C'est vrai qu'il y a des ministères différents, c'est vrai que nous avons des fardeaux différents, des services différents, des responsabilités particulières. C'est vrai que certains sont appelés à être des responsables dans notre Église, que Dieu a instituée. Mais ces personnes en responsabilité ont un rôle à jouer dans le mécanisme de la grâce, de la repentance. Un autre aspect qui nous soulève, Joël, et je vous en ai parlé tout à l'heure, dans la repentance, c'est le jeûne. Verset 12, avec des pleurs et des supplications. Ce que j'ai découvert en étudiant Joël, c'est que le jeûne, je ne m'étais pas beaucoup posé la question d'ailleurs, mais le jeûne est toujours là pour représenter l'humiliation, la détresse, pour montrer notre disposition de cœur qu'on est tellement faible devant Dieu. Le jeûne est là pour montrer notre état d'esprit, le dénuement le plus total qu'on se retrouve devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne voit pas le jeûne comme dans beaucoup de religions, comme dans beaucoup de cultures païennes, comme celle de la prouesse religieuse. Tu vois, plus on jeûne, plus on est spirituel. Le jeûne n'est pas une pression envers Dieu. Comme dans d'autres religions, le jeûne, plus tu jeûnes, tu vas faire une pression sur ton Dieu. Ce n'est pas pour montrer qu'on est plus saint que les autres, plus spirituel. Non, le jeûne ici n'est pas vécu comme un exercice spirituel, comme de l'athlétisme religieux. Ici, le jeûne est vraiment une disposition de cœur. Je suis faible et je veux le montrer devant Dieu. Cette semaine, il y avait un article dans les journaux, parce que les catholiques vont démarrer le carême, et c'est un jeûne. C'est aussi un jeûne qui se sont mis en place, 40 jours de mémoire, je ne connais pas trop, mais 40 jours avant la Pâque. Et je lisais dans le Figaro et je me suis dit, tiens, c'est pas comme Joël. Les 40 jours de carême sont en effet un moment où il faut se priver de plein de bonnes choses, le chocolat, les pénitences classiques, la privation d'Internet est apparue au XXIe siècle, oblige. Il faut avouer, tout cela n'est pas très motivant, car personne n'aime se faire mal. Pourtant, chaque année, l'Église catholique propose à tous les hommes de bonne volonté de faire un peu le tri dans leur vie, de revoir la place de certaines choses, de certains désirs qui peuvent nous ligoter et nous empêcher d'être vraiment libres. L'objectif est simple. Il est toujours bon de se désencombrer de soi. Faites donc l'essai, supprimez quelque chose que vous aimez pendant 40 jours. L'expérience est très instructive et on apprend beaucoup de choses sur soi-même. Car très vite, une interrogation apparaît. Ma vie ne vaut-elle pas plus que ce que je consomme ? Etc., etc. Mais ici, le jeûne dont il est question, ce n'est pas le jeûne dont parle Joël. La repentance s'appuie aussi sur la compassion de Dieu. S'appuie sur qui est Dieu. Verset 13. C'est un beau verset, hein. Revenez à l'Éternel car il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il regrette le mal qu'il envoie. Et j'espère que vous êtes comme ça. J'espère qu'on peut prier, j'espère qu'on peut crier, j'espère qu'on peut pleurer, j'espère qu'on peut s'adresser à Dieu, qu'on peut se repentir, parce qu'on voit de l'autre côté Dieu riche, Dieu compatissant, un Dieu de grâce, un Dieu plein de bonté. Un Dieu qui envoie, c'est vrai, des jugements, mais qui revient avec grande joie, son jugement. Verset 14, « Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il, etc. » Je me suis posé la question, mais pourquoi il y a écrit « Qui sait ?» Enfin, ça laisse le doute, peut-être que Dieu ne va pas... Et c'est là où ça nous rappelle le sens de mot « grâce ». On a du mal avec le mot « grâce » parce que la grâce n'est pas un dû. On se dit « Ah, je suis coupable » ou « Enfin, Dieu, voilà, il y a de la grâce. » Non, mais la grâce n'est pas un dû. C'est un cadeau. Dieu nous offre quelle que soit notre misère. Elle n'est pas un dû. Même si le peuple change de comportement, même si le peuple se repent, cette repentance n'a pas de valeur méritoire. C'est pas parce que le peuple est retourné à l'Éternel que Dieu va faire grâce. Dieu fait grâce parce qu'elle se base simplement sur ce que Dieu est. Dieu est amour. La grâce n'est pas un mérite. Ne l'oublions pas. Dans un chapitre d'un livre sur la confession, la repentance, alors Dietrich Bonhoeffer, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était un pasteur allemand durant la Deuxième Guerre mondiale, en Allemagne, qui s'est opposé notamment au régime hitlérien et qui est mort dans un camp de concentration, a écrit de super ouvrages. Il dit ceci : celui qui est seul avec son péché est complètement seul. Mais c'est la grâce de l'Évangile qui est si difficile à comprendre pour ceux qui sont pieux, qui nous confronte à la vérité et nous dit : tu es un pécheur, un grand pécheur, un pécheur désespéré. Maintenant, approche-toi comme le pécheur que tu es auprès du Dieu qui t'aime. C'est vrai que la confession des péchés, la repentance, le désir de s'approcher de Dieu est une des composantes vitales de notre marche, de notre spiritualité, de notre relation avec Dieu. Dans notre vie personnelle, il est facile de se repentir. Chacun chez soi, personne ne nous voit. Et quand je disais tout à l'heure, la repentance avait une dimension aussi communautaire. Il n'est pas facile de parler de soi, de ses difficultés, de ses luttes. C'est plus facile de les garder dans le silence de notre cœur. Mais lorsqu'il faut évoquer en petit groupe, on sort facilement des phrases floues, je me bats avec tel ou tel péché. Je me suis dit, mais qu'est-ce que parle l'Ancien Testament par rapport à la confession ? Enfin, on pourrait se dire par rapport au désir collectif. Jacques 5 dit clairement, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est vrai que face à une difficulté, notre société nous pousse comme ça à être chacun pour soi. On se dit, mais que va penser l'autre ? Nous avons peur de ce que les autres vont penser de nous si nous disons vraiment nos pensées secrètes, nos difficultés, notre irritabilité, nos constantes, notre esprit critique, nos luttes. Est-ce qu'on va perdre leur respect ? Mais l'échec à confesser nos péchés, nos difficultés dans notre marche avec le Seigneur est au fond aussi un échec à être intègre devant l'Éternel. On n'est pas tout à fait vrai. On a bien souvent plus peur de notre voisin, qui est aussi pécheur, que de Dieu. Dieu nous connaît précisément, Dieu nous connaît intimement. Nous ne pouvons pas nous cacher devant lui. N'est-il pas fou de craindre ceux qui sont comme nous, qui ont à lutter avec nous plutôt que de craindre l'Éternel. Joël nous encourage à revenir. Joël encourage le peuple d'Israël à revenir alors qu'ils sont dans une situation terrible. Ils sont allés trop loin, ils ont attendu trop longtemps. Reconnaissons notre besoin de Dieu. Je lis parce que j'ai noté plein de choses, hein, je ne sais pas si... Je vais prendre une exhortation de Jean qui nous rappelle cette dimension de la repentance collective dans 1 Jean 2, à partir du verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Lorsque nous apportons notre péché devant Dieu, lorsque nous apportons nos péchés, nos difficultés devant les uns les autres, ils deviennent concrets. On a besoin de mettre le doigt sur les horreurs de nos vies. Par la confession, Calvin dira dans ses Institutions de la religion chrétienne, par la confession de notre misère, et c'est ce qu'on voit dans Joël, par la confession de leur misère, nous montrons la bonté et la miséricorde de notre Dieu au milieu de nous et au monde entier. C'est vrai que lorsqu'on apporte notre misère devant Dieu, on ne peut que mettre en face. Pourquoi on l'apporte ? Parce qu'on ne peut que mettre en face la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ce qui nous encourage à pouvoir revenir à Dieu, c'est sa bonté, c'est qui il est. Et je trouve Joël... Il est encourageant, dans ce côté-là. La situation est dramatique. On pourrait se dire, c'est honteux de venir. Mais parce que Joël connaît Dieu, parce que Joël sait que Dieu est un Dieu bon, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, il sait qu'il n'est pas encore trop tard pour revenir à Dieu. Je trouve que c'est fort. Si on s'arrêtait avant cet appel à revenir à Dieu, on pourrait se dire... Quelle est la solution face à ce jour terrible, ce jour de l'Éternel ? Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce quatrième point, c'est un jour de restauration. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait une symétrie. Ce jour de restauration répond au jour terrible. De grandes choses vont s'accomplir. C'est la symétrie du début du livre de Joël. Joël nous avait raconté, nous avait décrit un jour terrible. Je ne vous rappelle pas toutes les images, vignes, champs, tout y était passé, quoi. Et Joël va reprendre les images qu'il avait données, le même vocabulaire, les mêmes illustrations, pour montrer la restauration que Dieu opère. Là où il y avait sécheresse, Dieu restaure et permet la pluie, et donc les récoltes, les moissons, les sauterelles. Il en fait son affaire. Ce qui est intéressant dans cette première partie, c'est le verset 18. L'Éternel aime jalousement. Dieu est jaloux. Ce n'est pas la jalousie dans le sens émotion, de l'envie à l'égard de l'autre. Non, c'est dans le sens biblique, l'exclusivité des sentiments. C'est l'amour du mari amoureux envers son épouse. Il aime sans partager. Dieu aime son peuple sans vouloir partager. Et en lisant Lévitique et Deutéronome, c'était ça. Dieu ne voulait pas qu'il soit partagé. Dieu voulait que son peuple soit entier. Et lorsque le peuple est entier, lorsque nous sommes entiers pour Dieu, Dieu veut nous restaurer. Dieu est ému. Dieu annonce une réparation. Et il fait de grandes choses. Sécheresse, sauterelles sont vaincues. Et quand on regarde la manière dont ces choses sont restaurées, clairement le texte montre qui est l'auteur de cette restauration. « Je vous enverrai le vin nouveau », verset 19. « Je ne vous exposerai plus, j'éloignerai de vous l'ennemi, je le chasserai », verset 20. « Car l'Éternel fait de grandes choses », verset 21. « L'Éternel vous donnera la pluie », verset 23. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles », verset 25. C'est clairement Dieu qui est à l'initiative de ce jour de restauration. Et quel est le résultat de cette restauration ? Vous serez rassasiés, verset 19. Verset 23. Vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel, la joie est revenue. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, la louange à l'égard de Dieu est revenue. Verset 27. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël. La fin de cette première partie de ce grand passage montre clairement. L'Éternel renverse la situation. Une situation qui semblait dramatique, sans espoir. Mais Dieu est capable de les transformer en jours de restauration lorsque le peuple revient à lui. Joël, qui appelait tout à l'heure à se lamenter, à pleurer, à crier, appelle cette fois-ci à l'allégresse, à se réjouir, y compris chez les animaux, la joie. Vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et dernières pluies comme par le passé. Joël, en parlant de la part de Dieu, connaît son Dieu. Joël voit en Dieu un Dieu qui restaure, un Dieu qui est capable de dédommager. Dieu montre au travers de ce passage qu'il ne tient plus compte des fautes de son peuple. Verset 25, c'est extraordinaire. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Je vous remplacerai. Comment on pourrait remplacer des situations dramatiques de nos vies qui sont passées ? Comment remplacer la perte d'un être cher ? Mais Joël nous montre les effets de la restauration, de celui qui revient à Dieu, de celui qui s'attend à Dieu. Qu'est-ce qui est impératif là-dedans ? Notre attachement et notre attente à Dieu. Joël sait que si le peuple revient à l'Éternel, Joël sait que son Dieu est un Dieu de grâce. Joël sait que Dieu est un Dieu qui veut restaurer. Est-ce que nous le croyons ? Est-ce que nous croyons réellement que Dieu est capable de rétablir les situations de nos vies qui aujourd'hui paraissent impossibles à réparer ? Est-ce qu'on croit que Dieu est capable de réparer nos torts, nos erreurs, nos égarements, nos difficultés ? En tout cas, Joël le dit. C'est le message de Joël. Un message de restauration qui se réalisera notamment par le Fils. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et je vais terminer par cela. C'est cela, je vérifie. Ne remettons jamais en cause cette réalité. Dieu est entièrement un Dieu de grâce, un Dieu qui veut restaurer. Si nous lui faisons confiance pour notre vie, si nous sommes cachés en Christ, si Christ a pris notre condamnation, les épreuves que nous pouvons connaître, même si elles devaient nous conduire dans la mort physique, proviennent du Père qui nous aime. Elles sont salutaires. Elles ne sont pas l'expression d'une punition face à la colère. Parce que la colère, il faut se rappeler que la colère de Dieu, le jugement de Dieu est retombé sur son Fils. Si nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus, nous sommes aujourd'hui au bénéfice de cette grâce, de cette réconciliation, de ce pardon, de cette restauration. Sur nous n'est plus le jugement de la colère. Proclamons que Jésus est celui qui a pris notre faute, qui a pris notre erreur, nos égarements, qui a pris notre grâce, qui a pris notre souffrance. pour les présenter à Dieu. Parce qu'il nous écoute. C'est pourquoi encourageons-nous à nous confier en lui, à l'adorer, comme on peut le faire par des chants, à pouvoir aussi confesser les uns envers les autres, pas en grand groupe, mais parfois en petit binôme, de pouvoir prier les uns pour les autres. En tout cas, Joël nous encourage au travers de l'épisode qui marque, je disais, hein, c'est l'événement pour Israël, qu'au travers de cet événement pour Israël, Joël puisse nous encourager dans notre vie quotidienne avec lui. Je voudrais m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai dit, je ne vais pas surveiller la montre.